aux responsables, dirons-nous, décident de créer ce petit pays qu'ils vont décider. Bon, on dit que c'est la Belgique, en référence à l'appellation de Jules César, en fait, de la Gaule Belgique.
Les Belgailles sont les plus forts, hein, à peu près ça. Hein.
Parce que les plus barbares, oui.
Parce que les plus barbares. Dans le texte, tu vas plus loin. Hein.
Dans le texte, c'est ce qu'il dit, en fait. Les Belges sont les plus braves, mais on oublie toujours la deuxième phrase, parce que les plus barbares. Mais c'est intéressant parce que déjà ce genre de constatation nous fait toucher un problème très important au jour d'aujourd'hui, qui est que si on décidait d'appliquer le terme Belgique à une réalité de l'époque gallo-romaine, ou plutôt d'appliquer ce qui était la Gaule Belgique à la Belgique actuelle, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a absolument aucun sens.
Alors, pour nos auditeurs, oulala, on sent que les heures passent. Pour nos auditeurs, on rappelle que tu as une formation d'anthropologue.
J'ai une formation d'historien et d'anthropologue, effectivement, ce qui m'entraîne parfois à des considérations un peu complexes.
Mais je vais encore un peu plus loin. Tu es également plutôt un manuel qu'un intellectuel.
Effectivement, puisque pour nourrir ma famille, je suis devenu ouvrier. Donc après avoir fait pas mal d'années à l'université, j'ai préféré être ouvrier au travail plutôt qu'universitaire au chômage. Et donc, c'est le jour où j'ai eu mon premier fils que je me suis reconverti pour devenir ouvrier. Et puis je suis devenu maître tailleur de pierre. Et donc j'ai retrouvé la dimension historique par cette profession.
Tailleur de pierre avec des rénovations de vieux bâtiments.
J'ai travaillé essentiellement, presque toute ma carrière, en restauration de bâtiments classés. J'ai un très très bel album photo, par exemple le Saint-Martin à Liège, la basilique Saint-Martin donc sur le sommet là, à Liège, c'est un très très beau chantier. La petite église Saint-Remac, la Marche-en-Famène, si vous passez par Marche-en-Famène, il faut faire le détour, c'est une petite église romane absolument superbe. Bon, j'ai fait la restauration, j'ai fait une restauration à Bruxelles, l'église du Parvis de Saint-Gilles, un bel édifice en pierre de France. Voilà, donc toute une série de bâtiments. C'était vraiment un chapitre de ma vie très, très, très intense, en fait, je dirais. Et puis, il se fait que, malheureusement, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans la construction, j'ai eu des problèmes de santé parce que le dos est fortement sollicité dans ce genre de métier et que je me suis retrouvé à devoir me reconvertir dans quelque chose de moins physique.
Et tu as rencontré ou tu as découvert la Crimée.
Et j'ai découvert la Crimée. Et donc la première idée, c'était de trouver un moyen de pouvoir y aller régulièrement. Et donc je me suis dit, il faudrait organiser du tourisme entre la Belgique et la Crimée pour que les gens puissent se découvrir les uns et les autres. Et c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé.
Le Covid, l'ami Covid qui a perturbé la vie de nombreux, enfin de tout le monde.
De tout le monde.
De tout le monde.
Et donc dans l'impossibilité de voyager pendant 2 ans quand même, m'a conduit à repenser un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le domaine de la communication interculturelle. Et ce qui n'a pas arrangé les choses, mais absolument pas du tout, c'est que une fois le Covid commençant à s'essouffler, en 2020, fin 2021, début 2022, j'ai donc refait mes visas pour pouvoir repartir, et paf, patatrac, l'opération militaire spéciale a commencé en Crimée. Et de nouveau, impossible de rejoindre la Crimée pendant quelque temps. Bon, maintenant, c'est possible d'y aller, même si c'est fortement déconseillé par le ministère. Mais bon, ça fait quand même très longtemps qu'il est fortement déconseillé d'aller en Crimée par le ministère, donc ça ne me tracasse pas trop. Mais c'est surtout le gros problème aujourd'hui, c'est essentiellement le rouleau compresseur médiatico-politique qui veut que ces pays, la Russie, puisque la Crimée fait partie de la Russie, je suis vraiment désolé d'avoir à leur rappeler et leur réexpliquer, mais en tant qu'historien, c'est limpide, la Crimée fait partie de la Russie, n'a jamais fait partie de l'Ukraine. Et donc on se trouve dans une situation où on se fait censurer, par exemple. Je me suis fait censurer régulièrement sur les réseaux sociaux, simplement pour dire des choses positives de la Russie. On se dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'arriver à ce que les gens ordinaires, pas des responsables. Les responsables, ils sont enfermés dans leur narratif, dans leur bulle. Mais les gens ordinaires puissent avoir encore des contacts et échanger. Ils se rendent compte finalement que nous sommes tous les mêmes.
Il y a quoi à voir en Crimée? Qu'est-ce qu'il y a en Crimée? Comment on vit en Crimée? Je ne parle pas de maintenant, évidemment, malheureusement, avec les difficultés dues au conflit qui règne dans la région. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qu'on peut faire en Crimée?
La Crimée est une sorte de petit paradis, en fait. C'est d'abord un pays où il y a de l'espace. C'est une chose difficile à comprendre pour un Belge, parce que sur la superficie de la Belgique, nous sommes maintenant 11 millions à peu près, je pense. En Crimée, sur la même superficie, ils sont 3 millions. Donc, il y a de la place, il y a de l'espace pour respirer. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a la steppe, il y a les grandes cultures fruitières, il y a la vigne. Donc il y a vraiment un espace très très agréable et un climat très agréable aussi, ce qui ne gâche rien, puisque c'est un climat méditerranéen. Donc on est en fait sur la mer Noire, juste en face de la Turquie, hein, donc c'est un climat méditerranéen. Un peu froid en hiver, donc en hiver ça peut descendre, il peut y avoir des gelées à moins 10, c'est normal, mais l'air est toujours limpide, et donc en hiver c'est du froid mais ensoleillé. Mais en été c'est carrément entre 29 et 35 quasiment tout l'été.
Au niveau historique, en Crimée, est-ce que la Crimée a une histoire ancrée au niveau de l'Europe?
Elle a une histoire absolument fabuleuse. Personnellement, j'ai toujours été un nordique. J'ai étudié l'histoire de l'art ici en Belgique, puis l'anthropologie. Je me suis toujours intéressé plutôt au peuple du Nord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'aime pas trop la chaleur, mais aussi en anthropologie, tous mes collègues, tous mes condisciples allaient faire leur mémoire en Afrique. Parce que, bon, étant belge, on étudie l'anthropologie, on fait son mémoire en Afrique, ça semble logique.
Oui, pour certains, mais pas pour tout le monde.
Mais bon, les relations entre la Belgique et l'Afrique sont quand même assez importantes depuis fort longtemps. Mais donc, par esprit de contradiction, mon idée était que je ne voulais surtout pas aller vers l'Afrique, donc je voulais aller vers le Nord. Et donc, je me suis orienté vers l'Écosse. Au nord de l'Écosse, il y a un archipel qui s'appelle les Orcades, qui était peuplé de Vikings, historiquement. Or, ces Vikings sont les premiers véritables Européens, puisqu'ils peuplaient le nord de l'Écosse, ils peuplaient les pays scandinaves, ils peuplaient l'Islande, mais ils peuplaient aussi la Russie. La Russie a été fondée par les Vikings, ça on ne le sait pas suffisamment. Et donc ça, c'est un point commun que nous avons. Et c'est comme ça que moi, je suis un beau jour débarqué à Kiev, parce que je m'intéressais beaucoup aux routes que les Vikings empruntaient pour aller de Scandinavie jusqu'à la mer Noire. C'était une voie commerciale tout à fait fréquente et régulière au Moyen-Âge. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Voilà. Maintenant, là, j'ai redécouvert l'antiquité gréco-romaine que j'avais complètement zappée. Parce que pendant mes études d'histoire, c'était un truc qui ne m'intéressait pas du tout. Les histoires de Grecs et les Romains, ça ne m'intéressait pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, à ce moment-là, je ne pensais que les civilisations du Nord. Et donc là, je me retrouve en Crimée. Et en Crimée, qui sont les fondateurs des premières villes de Crimée? Ce sont les Grecs. Donc, ce sont les Grecs au 6e siècle avant Jésus-Christ qui ont fondé les premières villes de Crimée. Et donc là, on a une histoire qui commence au 6e siècle avant Jésus-Christ. Bon, avant, on a différents peuples, essentiellement des Scythes, mais qui n'ont pas laissé beaucoup de souvenirs matériels, je veux dire. Mais vraiment, le début de l'archéologie en Crimée, ça commence avec les Grecs. Et alors, à partir des Grecs, on a les Romains, puis on a toute une série de peuples qui vont se succéder. Et donc, c'est très très riche aussi au niveau archéologique.
Ça date pas d'hier.
Ça date pas d'hier, non.
Ça date pas d'hier vraiment.
Et alors, bon, les disputes actuelles dont on parle assez de savoir si la Crimée serait ukrainienne ou russe, c'est absolument ridicule. C'est vraiment complètement ridicule.
La Crimée est criméenne.
La Crimée est criméenne. Et la Crimée est criméenne et les Criméens ont choisi de se rattacher à la Russie parce qu'ils ont une histoire commune très 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 longue quand même depuis le XVIIe siècle donc il faut écouter les gens simplement, je pense. On peut inventer des positions théoriques ou idéologiques, mais la base, me semble-t-il, c'est d'écouter les gens.
Alors justement, c'est quoi la vie en Crimée aujourd'hui?
C'est assez étonnant parce que comme dans beaucoup de régions de Russie rurale, il y a un grand écart en fait entre les générations. Je dis toujours, moi ce qui me plaît particulièrement, c'est que je retrouve là-bas une façon de vivre extraordinairement reposante. Une façon de vivre qui me rappelle celle de mes grands-parents en fait. La génération, donc ma génération actuellement en Crimée, donc ma compagne qui vit là-bas en Crimée, elle vit comme mes grands-parents. Mais par contre, ses enfants vivent comme nos enfants. Donc eux, ils ont fait le bon, essentiellement à cause d'Internet, qui les a branchés sur le monde moderne. Et donc on a en fait ce qu'on a fait chez nous en trois générations, eux le font en une seule génération. Et donc on a un monde tout à fait intéressant parce qu'il y a la richesse des deux mondes. Il y a la richesse du monde traditionnel et il y a la richesse du monde moderne qui vont se conjuguer d'une façon que personnellement je trouve plutôt intéressante. C'est plus intéressant qu'autre chose parce que c'est un peu surprenant de se dire que c'est compatible. Et c'est parfaitement compatible.
Et aujourd'hui, quel est tes activités par rapport à ton association qui a du mal à être active vu la situation?
C'est ça. Donc la question qui s'est posée à partir du moment où la guerre a commencé, en fait, puisque c'est devenu une guerre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore avoir des relations Et en fait, ça nous a plutôt élargi notre horizon parce que on se trouve confronté à la problématique de la paix. Et cette problématique n'est pas spécifique au problème de l'Ukraine ou de la Crimée. C'est une problématique qui est assez générale dans cette première moitié du XXIe siècle parce que ça part dans tous les sens, un peu partout sur cette planète. On est vraiment dans une situation où on a l'impression que le monde, tout d'un coup, en tout cas le monde occidental, tout d'un coup s'est transformé en un monde excessivement belliciste qui ne voit que la guerre partout comme horizon, en fait. Et on se dit, oui, mais bon... entre la guerre partout comme horizon politique et les gens, les simples particuliers, les simples personnes qui, dans leur énorme majorité, ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre en paix et d'avoir une qualité de vie au moins minimale. Pas besoin d'être richissime, mais tous les êtres humains sur cette planète, de quoi est-ce qu'ils rêvent? Simplement d'avoir une qualité de vie, de pouvoir élever leur famille, leurs enfants dans des bonnes conditions. Et ça, c'est universel. Mais on a un monde politique complètement décollé du réel, qui ne voit plus que qui n'envisage la politique que sous la forme d'une guerre. Comme si c'était indispensable. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est comme si c'était indispensable au maintien de notre situation telle qu'on l'a connue depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la situation d'une domination de l'Occident.
Alors on va faire une petite pause musicale. Alors on va rester sur le thème, malheureusement, de la guerre. On aimerait bien aussi faire la fête tout le temps, mais on est au Fête de l'Olnie, on est là pour faire la fête. Malheureusement, c'est pas le cas. On va simplement faire une chanson que nous avons écrite à Radio Solidarité sur la Palestine. Et c'est un morceau pour aider, aimer et libérer la Palestine.
Constituer la paix, un mirage dans le désert du réel. Les espoirs s'entremêlent entre ombre et lumière éternelle. Libérez la Palestine, laissez les gens vivre. Free Palestine, que le souffrance à survivre. Des droits égaux pour tous sous le même soleil. Finissons l'oppression que la liberté cédait. Libérez la Palestine, laissez les gens vivre. Free Palestine, que souffrance à survivre. Des droits égaux pour tous sous le même soleil. Finissons l'oppression que la liberté s'éveille. Thank you.
Voilà, alors un petit blond, j'ai été distrait, j'ai pas vu la fin de la chanson. Alors Henri, ça te parle cette chanson? Oh, attends, on peut pas...
Non, ah voilà.
On y est, c'est la bonne.
Oui, évidemment, évidemment que ça me parle, c'est un peu le... Allez, ce qui est le plus perturbant, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui, de voir l'énorme faillite humaine, parce que c'est une énorme faillite humaine, simplement de laisser les choses se dérouler depuis maintenant un an. Depuis un an, on laisse un génocide se dérouler. Et personne, il y a bien quelques déclarations, mais il n'y a pas grand-chose de concret. Il n'y a aucun pays qui concrètement a mis le haut là. Et donc, l'énorme majorité des pays non seulement ne font rien, mais l'énorme majorité des gens aussi continuent à vivre comme si rien de spécial ne se passait. Or, dans les livres d'histoire de la génération future, il y aura quand même, ce début de 21e siècle, un génocide. Il y a un génocide qui se déroule sous les yeux de la population du monde entier. On le voit sur Internet tous les jours.
Pourtant, il y a une vingtaine d'années, au Rwanda, on a dit, le monde entier a dit plus jamais ça.
Bien sûr, mais le monde entier passe son temps à dire plus jamais ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça. Et on n'a pas, ça n'a pas jamais empêché d'en refaire d'autres. À la fin du Vietnam, on a dit plus jamais ça. À la fin de la Corée, on a dit plus jamais ça. Et chaque fois, on recommence et puis on dit plus jamais ça. Mais est-ce qu'on est sérieux?
En tant qu'historien, tu pourrais qualifier ces situations, ce recommencement, cet éternel recommencement, comment tu pourrais le justifier, comment tu pourrais le qualifier?
Le justifier sûrement pas, mais plus en tant qu'anthropologue, je pense que c'est une caractéristique en fait de notre société occidentale. Notre société occidentale, me semble-t-il, est une société qui génère la guerre de manière... on peut reprendre la fameuse citation de Jean Jaurès qui disait « Le capitalisme entraîne la guerre comme la nuée entraîne l'orage. » Il y a quelque chose de constitutif dans notre société occidentale qui est profondément générateur de guerre. Comme si c'était le seul moyen que notre société avait d'interagir avec le monde. On le voit très très bien dans les actualités. L'Occident passe son temps à dire au reste du monde « Nous décidons, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous casse. On vous casse soit en vous faisant la guerre, avec des bombes, on l'a fait en Yougoslavie, on l'a fait partout où ça ne nous plaît pas, on va jeter des bombes. Et si c'est un endroit où on ne peut pas jeter des bombes, on va faire la guerre économique. Mais la guerre économique, c'est la même chose. Je veux dire, il n'y a pas de différence. On a tendance à croire vouloir faire croire que la guerre économique serait moins sale, moins... répréhensible que la guerre matérielle, la guerre militaire, mais ça n'a aucun sens. La guerre économique, c'est une vraie guerre totale qui vise à tuer les gens. On a tué des centaines de milliers d'Irakiens en faisant la guerre économique à l'Irak. On passe son temps à tuer des gens simplement en plongeant des pays dans la misère. La Syrie, pareil, s'est retrouvée dans la misère et avec des dizaines de milliers de morts simplement parce qu'on les a mis dans une misère économique. Donc l'économie, c'est la guerre aussi. Et c'est très caractéristique de notre de notre civilisation occidentale. Et ensuite, la troisième forme de guerre, c'est la guerre idéologique. Et là, on n'est pas en reste non plus. Et c'est probablement pour moi la pire. C'est cette idéologie qui veut que nous sommes détenteurs de la seule et unique vérité. Ce qui est une position qui fait que l'Occident est incapable d'avoir des relations normales avec les autres peuples, avec les autres cultures, simplement parce qu'on a été élevé depuis notre plus tendre enfance à s'imaginer que nous sommes la quintessence, nous sommes au-dessus de la mêlée, nous sommes la civilisation. Et donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué pour un occidental d'accepter de rentrer dans une autre façon, une autre relation au monde qui soit respectueuse, qui considère l'autre comme un égal. Et donc c'est un peu ça aussi le but de notre association. C'est à travers le cas particulier de la Belgique et la Crimée, qui sont deux tout petits pays finalement, de simplement se dire oui, mais on peut simplement, en tant qu'être humain, se considérer d'égal à égal, en dialogue et en essayant d'apprendre le plus possible de l'autre. C'est juste être humain.
On peut clôturer en disant que sur ces mots, en disant qu'être humain est le plus important.
Bien sûr, bien sûr. Il y a du monde qui se presse au portillon, là. On va céder la parole.
On va passer à quelque chose de plus joyeux, de faire la fête. On va essayer de ne pas penser à tous les malheurs qui tournent autour de notre planète actuellement, en sachant que c'est toujours là. On va essayer de passer, en tout cas maintenant, à autre chose, de plus joyeux, pour faire la fête, tout en ayant une pensée. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on en parle aujourd'hui, parce que le monde ne tourne pas rond et ne tourne pas correctement. On va faire une petite pause musicale et nous allons alors après parler de quoi ? Parler d'escargot ? Parler de caracol ? Alors on va voir ça juste après.
Radio Solidarité, la radio solidaire.
Je m'appelle Christine Mailly, je suis secrétaire générale et politique du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, qui est un réseau qui veut l'éradication de la pauvreté, et j'écoute Radio Solidarité.
Toi aussi, écoute et soutiens Radio Solidarité sur www.solidarité.tv.
Dans une petite rue sous un lampadaire, des musiciens se retrouvent venus de tous les coins de la terre. Ils accordent leurs instruments, des sourires en partage. Le jazz en toile font, le monde devient un village. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. Musiciens du monde, ensemble unissons nos destins. Les tambours africains aux guitares brésiliennes, les violons d'Europe, les flûtes d'Indienne. Chaque son raconte une histoire, une mélodie d'espoir. Le jazz nous guide, brise les frontières sans égard. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. Musiciens du monde, ensemble unissons nos destins. Chaque note, une promesse, une lueur, un avenir serein, un monde meilleur. La musique comme langage universel, nos âmes s'entrelacent, nos espoirs se révèlent. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. Musiciens du monde, ensemble unissons nos destins. Alors jouons encore jusqu'au bout de la nuit, que la mélodie de la paix nous guide et nous lie. Les musiciens du monde, main dans la main, partageons la joie jusqu'à demain matin.
Soutenez notre web radio et devenez un ami solidaire. www.solidarité.tv.
Alors, toujours en direct sur Radio Solidarité, nous sommes à Namur, place Lillon, dans le quartier Les Ponce-Palot. Alors, il y a du monde autour de nous. On est en compagnie de la caracole. Alors, la caracole pour les Namurois, c'est un escargot. Mais ici, je ne suis pas en compagnie d'escargot, je suis en compagnie de personnes. Bonjour et bienvenue sur notre antenne.
Bonjour, merci.
Alors, c'est quoi la caracole ?
C'est un groupe de danse folklorique.
Alors, folklorique, le folklore, c'est large, c'est grand. Vous dansez quelle danse et quelle période de l'histoire ?
Nous dansons des danses du 18e, du 19e siècle. Donc, nous sommes bourgeois et paysans wallons.
Bourgeois et paysans wallons. Pourquoi les bourgeois et les paysans ne dansaient pas forcément les mêmes danses ?
Non. Non, c'est pas la même époque. Et donc, nous avons deux costumes différents.
Alors, quels sont justement les costumes que vous proposez ?
Ben ici, nous avons le sarrau pour quand ils étaient au champ. Donc, on est en costume 19e.
Alors, au 19e siècle, on dansait quoi comme danse ?
On dansait des quadrilles, on dansait aussi des danses en cercle. Donc, des danses en ligne.
On peut parler de farandole, on peut parler de ce genre de danse ?
Non, non, on ne fait pas de farandole.
D'accord. Alors, vous êtes plusieurs autour du micro. Je vais allumer votre micro pour partager, parce que plus on est, mieux c'est. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez bien dans le micro et bien fort, parce qu'on est dans la rue. Il y a du monde, il y a du bruit autour de nous. Alors, quel genre de danse on danse vraiment ? Comment ça se passe ?
Ce sont des danses dansées en cercle, comme on vient de le dire, également en quadrille, en cadrette. Alors, ça veut dire à quatre couples.
À quatre couples, donc ça veut dire huit personnes.
C'est ça. Et les danses en cercle, les couples, le nombre est indéfini.
Alors toujours en couple et jamais individuel ?
Toujours en couple. Au 18e siècle et au 19e siècle, on dansait en couple.
Alors, vous êtes accompagné. C'est quoi comme musique ? Quel genre de musique ?
C'est des musiques à l'accordéon.
Accordéon diatonique ?
Tout à fait.
Uniquement et accordéon ?
Accordéon, pour l'instant, mais
à l'époque, c'était, il y avait quoi autre comme instrument ?
Il y avait aussi de la flûte, de l'épinette, un peu de percussion.
C'est quoi une épinette ?
C'est, nous dirons, une guitare couchée. Donc, une c'est un instrument couchée. À cordes.
Une guitare couchée. Qui, ouais. Elle avait sommeil, en fait. Alors, votre groupe, il est namurois. Hein, Jean-Bois, à côté, hein, de l'autre côté.
Oui.
On ne va pas dire à un Jean-Bois qu'il est namurois ou à un namurois qu'il est Jean-Bois. On va rentrer dans une polémique. On n'a pas envie. Mais à Jambes, vous vous entraînez, vous faites des répétitions où ?
Nous dansons à l'ADEPS. À Jean, tous les jeudis, de 20h à 22h.
Alors, on fait comment pour vous trouver la caracole ? Eh bien, à part au restaurant.
Nous avons un site internet, lacaracole.be, où on peut nous suivre. Il y a des photos, des vidéos, notre agenda et les coordonnées pour nous joindre, bien sûr. Hein, numéro de GSM, adresse mail, etc.
D'accord. Vous existez depuis combien de temps, la caracole ?
Nous avons fêté nos 40 ans. En 2023.
Ah, vous ne les faites pas, hein ?
Merci. Et nous avons aussi une page Facebook, la Caracole de Namur.
Alors, combien de personnes dans votre compagnie, dans votre groupe ?
Nous allons dire une petite vingtaine. Hein, nous avons trois musiciens aujourd'hui, mais nous avons eu jusqu'à 5-6 musiciens. Et nous sommes, on va dire, 12 personnes, donc ça veut dire 6 couples à danser. Mais bien sûr, qui est intéressé à la danse folklorique, n'hésite pas à nous rejoindre.
Alors justement, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui sont intéressés par la danse folklorique ? Est-ce que ce n'est pas ringard ?
C'est vrai que les jeunes peuvent trouver ça ringard, mais c'est aussi notre histoire, c'est notre patrimoine. Et donc, je peux vous dire que c'est encore bien vivant, puisqu'il y a 15 jours, nous avons fait une jeune recrue de 14 ans.
Alors, moi, j'ai eu d'autres groupes avant vous. Hein. Vous n'êtes pas le premier groupe qui défile ici au micro de Radio Solidarité. On me dit justement qu'à 12, 13, 14 ans, ben non, on vient plus, on veut plus ça. Et là, vous me dites que vous avez un jeune de 14 ans.
Voilà, ça c'est l'amour du folklore, l'amour de notre histoire, de notre patrimoine.
Et comment ça se passe pour un jeune qui vient là Pourquoi? Pourquoi justement?
Pour danser, pour les relations. Hein, c'est polygénérationnel, nous allons dire, intergénérationnel. Hein. Donc ici, ben, notre plus jeune aujourd'hui a 14 ans et le plus âgé, ben, 75 ans.
Ah et oui,
ça,
quand même.
C'est la richesse du groupe. C'est d'avoir différentes générations qui dansent en même temps.
Et comment on apprend justement à danser, à faire ses pas, etc. Est-ce compliqué?
C'est compliqué. C'est compliqué, mais tous les danseurs s'entraident et on prend le temps d'apprendre les danses, d'apprendre les chorégraphies. C'est à ça que servent les répétitions que nous donnons.
En tout cas, merci d'avoir parlé. D'être venu nous rejoindre ici au studio de Radio Solidarité et de parler de votre passion de la caracole.
Voilà, mais tout le plaisir est pour nous.
En tout cas, merci, donc n'hésitez pas, lacaracole.be.
Voilà, la caracole. Et nous avons un slogan, à la caracole, on décolle.
En tout cas, merci beaucoup pour ce partage avec nous. On va je cherche une chanson pour faire une petite pause musicale pour accueillir notre prochain invité hein, qui est là à mes côtés.
Je vous suggère Libia Bouquet.
Oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur de le dire. Hein. Nous sommes dans une radio totalement indépendante où nous ne mettons que des musiques totalement libres et indépendantes. Et je n'ai pas trouvé une version qui était libre chantée et je ne veux pas payer de SABAM et de droits d'auteur à des sociétés commerciales. Donc on a un autre système pour pouvoir diffuser des musiques en libre de droit avec des chanteurs de qualité, avec des groupes de qualité. Donc on s'abstient.
D'accord.
Mais en tout cas, on le pense très fort. On est namurois. Libia Bouquet, on y pense très fort. Et on aura peut-être les Molons qui passeront nous voir tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup de ce partage avec nous et nos auditeurs. Nous, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après avec le président des présidents.
Dans ce petit royaume sous la pluie et la lumière, la bière coule à flot, c'est notre vrai trésor. Des micro-brasseries aux géants industriels, une chose est sûre, nos bières sont fidèles. À la santé de la Belgique, le fond de nos verres bien haut. Du houblon et de la magie dans chaque goutte qu'on boit. Des trappistes aux blondes légères à chaque coin de rue. Un goût unique, un savoir-faire qui fait chanter nos rues. On dit que la bière, c'est l'âme de notre terre. Des collines de Flandre aux vallées de Wallonie, les moines brassaient pour l'amour et la prière. Aujourd'hui on boit pour la joie et l'amitié. Dansez, dansez au son de l'accordéon. Laissez la bière guider vos pieds, un, deux, trois, sautez. À chaque gorgée, un nouveau couplet. À la santé de la Belgique, le bon verre bien haut. Du houblon et de la magie dans chaque goutte qu'on boit. Les trappistes aux blondes légères à chaque coin de rue. Un goût unique, un savoir-faire qui fait chanter nos rues. Nos voisins français, ils ont le vin, c'est vrai. Mais quand ils goûtent nos bières, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir un brin de jalousie. Car notre nectar mousseux leur fait envie. À la santé de la Belgique, levons nos verres bien haut. Du houblon et de la magie dans chaque goutte qu'on boit. Des trappistes aux blondes légères à chaque coin de rue. Un goût unique, un savoir-faire qui fait chanter nos rues.
La bière belge, c'est notre cœur et notre histoire. Un trésor inestimable qu'on partage ce soir. De Namur, la ville résonne d'un air pur. Accordé aux joutes sur les pavés, des mélodies celtiques, des rires en faux. Entre les pierres et les cafés, les histoires d'antan sont murmurées. La cendre danse sous les lanternes, Namur chante son âme éternelle. Namur sous la pluie et les étoiles, ton esprit brille dans les balles. Si t'avais les pontistes des récits, Namur je t'en famille. Comme des rivières sous les accents d'une guitare fière. Polka et jigs s'entrelacent, chaque coin un nouveau pas de danse. Les bateaux passent, les ponts se croisent au son des rires et des histoires d'oise. Là où se rencontrent cendres et meuses, les cœurs se mêlent, les âmes se creusent. Namur sous la pluie et les étoiles, ton esprit brille dans les pales. Si t'as des répondistes, des récits, Namur se dans ta vie. Des rivières sous les accents d'une guitare fière. Polka et jigs s'entrelacent, chaque coin un nouveau pas de danse. Les bateaux passent, les ponts se croisent au son des rires et des histoires d'oise. Là où se rencontrent cendres et meuses, les cœurs se mêlent, les âmes se creusent. Namur sous la pluie et les étoiles, ton esprit brille dans les balles. Si t'as des répondistes, des récits, Namur je danse ta vie. Sous la pluie, tes secrets s'éveillent. Dans l'esprit brille, dans les balles. Citadelle et pontisse, des récits. Namur, je dans ta vie. Namur, sous la pluie, tes secrets s'éveillent. Dans la lumière, des réverbères qui veillent. Les pavés chantent, les murs murmurent. Histoire gravée dans la pierre dure. L'histoire gravée dans la terre dure. Quand le soleil décline sur la Meuse, les ombres dansent l'amoureuse. Les clochers vibrent d'une vieille chanson. Namur, une vie en pleine passion. Chaque sourire, chaque regard porte le souffle d'un vieillard. Namur, tu résonnes dans mon cœur comme un écho d'amour de chaleur. C'est fidèle. Sous la pluie ta magie m'appelle. Dans tes rues et tes rivières claires, je trouve l'espoir, je trouve l'air.
Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité.
Petit pays de pluie et de lumière, où les héros naissent sur des pages de papier. On dessine des rêves, des histoires à faire sourire, des aventures sans fin pour toujours nous éblouir. Oh Belgique, terre de la bande dessinée, où Tintin, Spirou et tant d'autres sont nés. Dans tes bulles on voyage, on rit, on pleure, ton encre coule dans nos cœurs. Aux douces lueurs, de Bruxelles à Charleroi, des murs peints en couleur, les héros défilent, chaque rue a son auteur. De Peillot à Franquin, nos âmes sont enchantées, la BD est notre fierté, notre identité. Oh Belgique, terre de la bande dessinée, où Tintin, Spirou et tant d'autres sont nés. Dans tes bulles on voyage, on rit, on pleure, ton encre coule dans nos cœurs, aux douces lueurs. Les schtroumpfs
danse sous la pluie. Lucky Luke chevauche les prairies. Gaston rêve dans son bureau. Léo Belge nous offre tant de cadeaux. Pays de la bière et des chocolats fins, les dessinateurs ont fait fleurir un jardin. Avec des crayons, des pinceaux et des rêves dorés, ils ont donné au monde des histoires à partager. Oh Belgique, terre de la bande dessinée, où Tintin, Spirou et tant d'autres sont nés. Dans tes bulles, on voyage, on rit, on pleure, ton autre coule dans nos cœurs. Oh douce lueur de la Belgique, la bande dessinée est l'âme. Une culture si riche qu'elle ne peut avoir de flamme. Dans chaque trait, dans chaque case illustrée, vit l'esprit d'un pays qui ne cesse de rêver.
Écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité.
Laurent, en direct de Namur, place Lillon. Nous sommes au cœur des fêtes de Wallonie et nous avons un invité qui vient de nous rejoindre. Et c'est le président des présidents. On va évidemment expliquer tout ça. Bonjour et bienvenue sur Radio Solidarité.
Bonjour.
Alors, on dit que vous êtes le président des présidents, donc vous êtes le président du CCQN. C'est quoi le CCQN ?
Alors, Namur est organisé en 12 quartiers indépendants. Chaque quartier a son président et il y a le collège des comités de quartier qui réunit les 12 présidents et j'ai la chance d'en être la présidente, le président.
Est-ce une chance ?
On va dire ça comme ça.
Alors, ça consiste en quoi justement ces 12 quartiers ? Est-ce que vous êtes maître dans votre quartier ? Je sais que le bourgmestre, à un moment donné, le mailleur, vous donne les clés des quartiers ?
Voilà, tout à fait. Donc la tradition veut que le bourgmestre, au début des fêtes de Wallonie, remette les clés de la ville et les clés des différents quartiers au président. Et c'est quelque part le lancement un peu folklorique et officiel de nos fêtes. Alors une des forces ici à Namur, c'est qu'effectivement, les 12 quartiers ont chacun leur autonomie et chacun leur programmation. Et c'est un peu unique où, par rapport à d'autres fêtes de Wallonie dans d'autres villes, c'est la force du mouvement associatif où dans chaque partie de Namur, chacun fait un petit peu comme il veut. Donc on peut à la fois avoir des quartiers très solidaires comme ici, avoir des quartiers beaucoup plus rock comme du côté des Trieux Latins, des quartiers plus festifs comme la République Libre des Vieux Marchés, des choses pareilles. Et c'est ça qui fait, je crois, la particularité de nos fêtes, c'est que chacun en trouve à son goût. À côté de ça, il y a aussi toutes les parties officielles, comme le discours du bourgmestre ce matin, comme la rentrée parlementaire ici dans quelques minutes, etc. Et c'est ce mixte, un peu cette magie et cette synergie qu'il y a entre différents partenaires qui fait que les fêtes ont ce succès. Ce matin, on a eu l'occasion de rencontrer les organisateurs des fêtes de Gand, qui étaient très surpris de la manière dont on s'organisait. Pourtant, eux, c'est en 10 jours 1 200 000 personnes qui les fréquentent. Et ils trouvaient quand même que ce mix était assez surprenant. Et donc, c'est vraiment une exception namuroise.
Une exception, mais une exception qui marche, parce que ça a plus de 100 ans.
Oui, et sans cette exception, les fêtes de Wallonie ne seraient pas les fêtes de Wallonie. Je crois que justement, on a besoin du comité central pour toute la partie folklore, mémoire, etc. On a besoin des quartiers pour toute la partie plus populaire. Quand je dis populaire, c'est vraiment dans le bon sens du terme. C'est faire la fête avec les gens et pour les gens, avec les Namurois, pour les Namurois, et aussi ce côté officiel. Et c'est vraiment ce mixte qui fait que nos fêtes de Wallonie ont ce succès-là. S'il n'y avait qu'une des parties, alors que les parties officielles, ça n'intéresserait pas grand monde. S'il n'y avait savait que le folklore s'intéresserait qu'une partie des personnes. Et donc c'est ce mixte qui fait le succès de nos fêtes.
Alors,